Chapitre 2.
2 octobre 1998, 8h27. Ces deux-là étaient-ils amants ou frères et sœurs? La question agaçait depuis près d'un mois Mariam, la patronne du bar Le Lénine, au carrefour de l'avenue de Stalingrad et de la rue de la Liberté, à quelques mètres du parvis de l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. À 7h matinale, le bar était aux trois quarts vide. Mariam en profitait pour disposer avec ordre les tables et les chaises. Les deux en question se tenaient assis comme d'habitude, au fond, près de la fenêtre, une minuscule table pour deux, se regardaient droit dans leurs yeux bleus, se tenaient la main. Amant, ami, fratrie, Mariam soupira. Cela l'énervait, cette incertitude. D'habitude, elle possédait un jugement plutôt sûr s'agissant des affaires de cœur de ses étudiants. Elle s'activa. Elle devait encore passer l'éponge sur les tables, un coup de balai peut-être. Dans quelques minutes, le terminus de la ligne 13 du métro, la station Saint-Denis Université, déverserait ses milliers d'étudiants pressés, stressés, débordés, déjà. La station n'était ouverte que depuis 4 mois. Son inauguration avait déjà métamorphosé le quartier. La fac de Saint-Denis était désormais reliée directement au cœur de Paris. Mariam disposa sans ménagement les chaises autour des tables, consciente que parmi les milliers d'étudiants studieux et anxieux, une proportion non négligeable ferait une halte plus ou moins longue au Lénine, histoire de prendre un café, de fumer une dernière cigarette tranquille, de retarder le moment d'aller s'enfermer dans un amphi, d'arriver en retard en cours, ou de ne pas y aller du tout, finalement. Mariam connaissait le rush de 8h45. Elle avait vu lentement se transformer l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, la grande université des sciences de l'homme, de la société, de la culture, la rebelle, en une sage et banale université de banlieue. Désormais, la plupart des profs faisaient la gueule d'être nommés à Paris 8. Ils visaient la Sorbonne, Jussieu à la limite. Avant l'ouverture de la station de métro, les profs devaient traverser la plaine Saint-Denis, se confronter un peu à la zone autour. Maintenant, avec le métro, cela aussi était fini. Les profs s'engouffraient dans le métro, ligne 13, pour foncer vers les hauts lieux de la culture parisienne, les bibliothèques, les labos, les ministères, les hautes institutions. Mariam se retourna vers le comptoir pour aller chercher une éponge et jeta un discret coup d'œil en coin au couple qui ne cessait de l'intriguer, cette jolie blonde et ce grand gaillard transi. Ce couple lui rongeait les nerfs. Cette énigme sournoise finissait par la hanter. Qui était-il? Mariam n'avait jamais rien compris au fonctionnement de l'enseignement supérieur, au partiel, au module, aux grèves. Mais nul ne savait mieux qu'elle surveiller la récré. Elle n'avait jamais lu Robert Cassel, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Lacan, les profs stars de Paris 8. Elle les avait au mieux croisés une fois ou deux dans son bar ou sur le parvis. Mais elle se considérait pourtant comme une experte en psychanalyse, sociologie et philosophie des peines et amours estudiantines. Elle jouait la mère poule avec ses protégés, les habitués de son café. Elle s'occupait du côté cœur avec une compétence toute professionnelle. Une nouvelle fois, Mariam tourna la tête vers le couple près de la vitre. La relation entre ces deux-là résistait pourtant à son expérience, à ses intuitions. Émilie et Marc. Ça l'agaçait au plus haut point, cette incertitude. Amant timide ou parent? Mystère. Mariam n'arrivait pas à se faire une idée précise. Quelque chose clochait, si ressemblant et tellement différent. Mariam connaissait leur prénom. Elle retenait le prénom de tous les habitués. Lui, Marc, étudiait à Paris 8 depuis 2 ans maintenant. Il était un client fidèle du Lénine. Grand, plutôt joli garçon, mais avec un air un poil trop gentil, un genre petit prince décoiffé, un peu rêveur, avec comme un certain manque de classe. Le profil de l'étudiant qui ne connaît pas encore les codes, qui débarque. Un petit côté provincial, un manque de fric aussi, pour s'offrir une garde-robe branchée, moderne. Côté boulot, Marc n'était apparemment pas un violent. Il étudiait doucement le droit européen, d'après ce qu'elle avait compris. Un calme, un contemplatif pendant ces 2 ans. Mariam avait compris pourquoi. Il l'attendait, son Émilie. Elle était arrivée cette année, en septembre. Elle devait donc avoir 2 ou 3 ans de moins que lui. Oui, ils avaient des traits communs. Cet accent un peu populaire dont Mariam n'arrivait pas à définir la provenance, mais c'était incontestablement le même que celui de Marc. Pourtant, cet accent cadrait mal avec Émilie, sa personnalité, tout comme ce prénom, banal, courant, Émilie. Émilie était blonde, comme Marc, des yeux bleus, comme Marc. Ils se ressemblaient, relativement. Mais autant les gestes de Marc étaient gauches, simples, un peu empruntés, autant Émilie affichait un je ne sais quoi de différent dans sa façon de se déplacer, une sorte de noblesse dans le port de tête, une élégance racée dans le moindre mouvement, une grâce qui semblait héritée d'une ascendance rare, d'une éducation privilégiée. Une aura peut-être fréquente dans d'autres universités, dans l'entre-soi des grandes familles, des grands instituts, des écoles normales supérieures, mais presque incongrue ici, parmi les étudiantes de la plaine Saint-Denis. Autre mystère, côté fric, le niveau de vie d'Émilie semblait aux antipodes de celui de Marc. Mariam était capable d'évaluer d'un seul coup d'œil l'origine, la qualité, le coût des vêtements portés par ses étudiants, de H&M à Zara, en passant par Jennifer ou Yves Saint-Laurent. Émilie n'était pas Yves Saint-Laurent, mais pas loin. Ce qu'elle portait sur elle, élégamment et simplement, un chemisier de soie orange et une jupe noire coupée de façon asymétrique, coûtait sans aucun doute une petite fortune. Non, Émilie et Marc, s'ils venaient du même endroit, n'appartenaient pas au même monde. Ils étaient pourtant inséparables. Il existait entre eux une complicité qui ne s'invente pas, qui ne se fabrique pas en quelques mois de fac, comme s'ils avaient toujours vécu ensemble. Cela se percevait dans ces 1000 petites attentions protectrices de Marc pour Émilie, discrètes, systématiques, une main sur l'épaule, une chaise qu'on avance, une porte qu'on tient, un verre qu'on remplit. Mariam savait décrypter ses gestes, des habitudes de grand frère envers une petite sœur. Elle essuya une chaise, la reposa avec énergie, sans cesser de penser à ce couple. Émilie était arrivée à Paris 8 en septembre, comme si Marc lui avait préparé le terrain, avait passé 2 ans à lui tenir au chaud sa place dans l'amphi et sa table près de la fenêtre, au Lénine. Mariam sentait en Émilie une étudiante brillante, ambitieuse, rapide et décidée. Artiste, littéraire. Elle percevait cette détermination lorsqu'elle sortait un livre, un cours, lorsqu'elle révisait d'une lecture express en diagonale des notes sur lesquelles Marc peinait pendant des heures. Frères et sœurs alors, malgré leurs différences sociales? Sauf que Marc était amoureux d'Émilie. Cela aussi crevait les yeux. Pas comme un frère, comme un amant éperdu. C'était évident pour Mariam, dans le moindre regard. Une fièvre, une passion, impossible de s'y tromper. Mariam n'y comprenait plus rien. Mariam les espionnait depuis 1 mois. On ne se refait pas. Elle avait glissé un regard furtif sur le nom d'un dossier, d'une copie posée sur la table. Elle connaissait leur nom. Marc Vitral, Émilie Vitral. Finalement, cela ne l'avançait à rien. L'hypothèse logique était qu'ils soient frères et sœurs. Mais ces gestes incestueux, alors, cette main de Marc dans le bas du dos d'Émilie, peut-être était-il tout simplement marié, entre 18 et 20 ans, peu banal pour des étudiants, mais possible. Restait l'homonymie, mais Mariam ne croyait pas à une telle coïncidence, sauf s'il s'agissait d'un lien de parenté plus éloigné, un cousinage, une famille recomposée, compliquée. Les chaises défilaient sous le chiffon rageur de Mariam, claquaient sur la faïence du bar. Émilie semblait tenir beaucoup à Marc. Pourtant, son regard était plus complexe, difficile à lire, souvent perdu, surtout lorsqu'elle était seule, comme si elle dissimulait une fêlure, une profonde tristesse. Cette mélancolie offrait à Émilie ce charme décalé, cette distance sur le monde qui la rendait différente des autres bimbos du campus. Aucun étudiant au Lénine ne se gênait pour dévorer des yeux la belle Émilie. Mais sans doute à cause de cette distance, de cette retenue, aucun dragueur n'aurait osé l'aborder. Sauf Marc. Émilie était à lui. Il était ici pour cela, pas pour les études, pas pour la fac, seulement pour être là avec elle, pour la protéger. Un garde du corps. Cela, Mariam l'avait compris. Mais le reste, le lien qui les unissait. Mariam avait essayé de parler avec Émilie et Marc de tout, souvent, sans rien apprendre d'intime. Tant pis, pour l'heure, elle abandonnait. Elle saurait bien, un jour. Elle s'affairait à nettoyer les dernières tables lorsque Marc leva la main.
Mariam, tu nous mets deux cafés, avec en plus un verre d'eau pour Émilie ?
Mariam sourit pour elle-même. Marc ne prenait jamais de café lorsqu'il était seul et en commandait toujours un lorsqu'il était avec Émilie. Un café allongé. « Ça marche, les amoureux !» répondit Mariam. « Pour tester. » Marc afficha un sourire embarrassé. Émilie, non. Elle tenait sa tête légèrement baissée. Mariam s'en apercevait seulement maintenant. Émilie avait une figure effroyable ce matin, le visage déformé de celle qui n'a pas dormi de la nuit. Même si elle arborait un sourire de circonstance, son élégance pouvant donner le change. L'angoisse d'un examen, d'une nuit de révision, d'un dossier à rendre en urgence ? Non, c'était autre chose. Mariam secoua le marc de café dans la poubelle, rinça le percolateur, fit couler les deux expressos. Quelque chose de grave. Comme si Émilie devait annoncer une nouvelle douloureuse à Marc. Mariam en avait vu tant, des rendez-vous d'adieu, des tête-à-tête pathétiques, des braves gars qui restaient seuls devant leur café pendant que la fille partait, un peu gênée, libre surtout. Émilie avait la tête d'une fille qui a passé la nuit à réfléchir et qui, au petit matin, a définitivement fait son choix, prête à assumer les conséquences qu'il implique. Mariam marcha lentement vers le fond du Lénine, portant sur un plateau les deux cafés et le verre d'eau. Pauvre Marc. Se doutait-il qu'il était déjà condamné ? Mariam savait aussi se faire discrète. Elle posa les cafés et se retourna, sans écouter.